Bonjour tout le monde. Bonjour, Spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 18 décembre 2013. Christophe Rollin au micro, je suis en compagnie de Gérald, mais peut-être ne pourrons-nous pas l'entendre. Pourquoi ? Parce que la compagnie La 11e est venue en masse, ils sont presque 11 pour parler du spectacle Huis Clos qui va être la grosse actualité de cette émission jusqu'à 15h. Comme tous les mercredis, nous sommes sur Radio Canu, le 102.2 de la bande FM à Lyon, ou bien écoutez-nous donc sur internet radiocanutoutaccroché.org. Nous allons parler de cette pièce Huis Clos de Jean-Paul Sartre qui a commencé déjà depuis quelques jours, la semaine dernière, mardi me semble-t-il, ça devait être le 10 décembre et ça continue jusqu'au samedi de cette semaine, voire dimanche je crois. On en parlera, ils veulent tous parler, mais moi j'ai coupé tous les micros, il n'y a que moi qui ai la parole pour le moment. Nous allons écouter une première introduction musicale, on la doit à Gérald, gracieuseté de Gérald pour introduire cet univers, univers de Jean-Paul Sartre avec la pièce Huis Clos. Nous sommes au Brésil, nous assistons presque à la mort de Joseph Garcin, que j'avais appelé Vatrin dans une émission précédente. Joseph Garcin, l'un des personnages qui est mort, en dis-je trop bien, on va l'écouter dans quelques instants, et donc il était à Rio, et voilà, commençons donc à Rio avec Imagine Perdida, l'image perdue. C'est un extrait de Márcio Faracu, l'album Invento. Peut-être davantage une prononciation portugaise que brésilienne, mais ça n'est pas grave. Nous allons donc écouter cette première piste musicale et puis ensuite nous continuerons avec la compagnie La 11e. Ils vont tous se présenter, parler de cette pièce Huis Clos de Jean-Paul Sartre et puis indiquer plus précisément comment cela se passe sur scène. Ai-je bien dit que c'était à l'espace 44, au 44 de la rue Burdeau, ça n'est pas très loin, c'est dans le coin du premier arrondissement. Allez, j'en dis trop. Écoutons un petit peu de musique, nous sommes à Rio et puis ensuite nous écouterons plus précisément la compagnie La 11e nous parler de cette pièce Huis Clos de Jean-Paul Sartre à l'espace 44.
Como essas coisas que não valem nada e parecem guardadas sem motivo. Alguma folha seca, uma taça quebrada. Eu só tenho valor estimativo nos olhos que me querem é que eu vivo. Esta existência efêmera e encantada. Um dia não distingui-se e então mais nada. Mais nada refletirá meu vulto vago e esquivo. Cerraram-se os olhos das amadas. Meu nome fugiu de seus lábios vermelhos. E no entretanto, em meio desta longa viagem, muitas vezes farei e nos espelhos, procuro em vão minha perdida.
Nous écoutions Cannes à l'instant. Alors en fait, il faudrait prononcer différemment. Gérald me disait qu'ils étaient allemands, mais je ne sais pas pourquoi. Je pensais qu'ils étaient américains et nous écoutions Spoon. Est-ce lié à l'actualité de l'émission d'aujourd'hui, à savoir Huis Clos de Jean-Paul Sartre, mise en scène à l'espace 44 ben, peut-être pas vraiment, moins que la première chanson au tout début de Márcio Faracu qui parlait bien de cette ambiance à Rio. Je vous en prie, la compagnie La 11e, reprenons les choses. Nous parlons donc maintenant plus précisément, on a évoqué expliqué ce qu'était la compagnie La Onzième. Nous avons également ajouté quelques mots pour présenter cette pièce de huis clos de Jean-Paul, cette pièce huis clos de Jean-Paul Sartre. Et donc maintenant, moi, ça me semblait intéressant, puisque vous êtes, vous, acteur présent ici dans cette émission, ça me semblait intéressant d'entendre bien ce que vous avez à dire sur vos personnages. Alors peut-être en parlant de l'histoire encore un peu, ou alors peut-être plutôt en parlant de je ne sais quoi, de travail, d'apprentissage, de travail, d'espace, de spatialisation. Gérald l'ajoutait, il faut évoquer, je pense, la musique, on pourra peut-être en dire quelques mots, mais aussi les décors, scénographie, enfin je ne sais, les ombres chinoises, disait tout à l'heure Arnaud. Donc voilà, messieurs, mesdemoiselles, à savoir, je reprends, nous avons dans l'ordre Sébastien, Arnaud, Guillaume, Clémentine, Annabelle et Aurélie.
C'est ça.
C'est Arnaud.
C'est Arnaud, et qu'ai-je dit? Arlo. Oula. Ah d'accord, je n'avais pas vu écrit. Et...
Non, mais c'est
bon. Eh bien, que dire donc de vos rôles? Parce que sur ces, vous êtes combien présents? 2, 4, 6 présents. 3 seulement sont sur scène. Disons, 4 sont sur scène. J'oublie toujours un peu le garçon qui apparaît quand même de manière assez essentielle au tout début, puisque c'est lui qui présente les choses, qui apparaît une deuxième fois pour amener. Bien, à chaque fois, il amène quelqu'un. Il amène donc Inès. Tout d'abord, c'est la deuxième et bien entendu, il amène Garcin en tout premier lieu, ensuite il amène Inès. Et puis en dernier lieu Estelle. Et il ne revient pas, je crois, le garçon. Et alors qu'il y a une scène où Garcin frappe à la porte, et d'ailleurs la porte s'ouvre, mais sort-il, ne sort-il pas, je vous en prie. Que ce soit donc Guillaume ou les filles, ou bien Arlo, donc quel a été le travail? Enfin, je ne sais pas, peut-être on pourrait parler de ça, ce qu'on a évoqué. Vous avez vu des scolaires, hein. Que demandent-ils les scolaires? Quelles sont les questions qu'ils posent?
Je voulais juste commencer en fait en parlant juste du travail, avant que chacun parle de son personnage, juste parler du travail en fait de Sven Narbonne, qui lui en fait, au départ, normalement, Sartre écrit la pièce en mettant ça dans un décor, dans un salon Second Empire, qui est un peu le symbole du mauvais goût. Il y a un bronze de Barbedienne, quelque chose de très lourd, de très voilà, qui étouffe un peu. Et Sven, lui, l'idée, alors pour faire le lien justement avec le jeu des comédiens, il voulait vraiment que ce soit le jeu des comédiens qui prime sur ce spectacle-là. C'est-à-dire que, forcément, bon, comme n'importe quelle pièce, mais là, pour le coup, le décor, il allait chercher à l'épurer totalement pour qu'en fait, il n'y ait aucune tricherie. Ça veut dire que, vraiment, on a les comédiens en face de nous, on ne peut pas voir autre chose que les comédiens. C'est-à-dire que c'est vraiment les quatre personnes qu'on voit sur scène, dont le garçon qui, lui, rentre et sort. C'est vraiment ces gens-là qu'on a en face de nous. Donc, on ne peut pas se référer à n'importe quoi d'autre. En fait, on n'a vraiment que le jeu des comédiens au cœur de la scène.
Donc c'est pour ça que je lisais adaptation de la pièce, il y a des coupes, c'est ça je
voilà,
suppose.
En gros voilà, il y a
le
des
bronze
coupes.
N'est plus évoqué,
voilà.
Non, miroir, ils en parlent, mais justement il n'y est pas, donc voilà. ça doit rester, je suppose, le miroir.
Voilà, exactement.
Tout et le papier aussi voilà. disparaît.
Hein. Donc ouais. Il n'y a pas de tentative de re-assassinat de la part. Ah si, quand même.
Mais autrement.
Ah, voilà. Autrement.
C'est pour ça que c'est une adaptation. Voilà.
Courez donc 20h30 en soirée, relâche les lundis. D'ailleurs, il n'y a plus relâche le lundi, puisqu'il n'y a plus de lundi, c'est bien passé. Très intéressant ces termes-là, parce qu'effectivement, je voulais vous le demander, j'ai bien vu que c'était indiqué adaptation, donc je m'étais voilà. demandé, ah, qu'est-ce à dire? Est-ce que des passages ont été coupés? Pour quelles raisons? Bon, ouais. Là, c'est très clair. C'est pour qu'il y ait les acteurs seuls en face des spectateurs et non pas des objets qui pourraient être incommodants. Et une fois donc cette note de préambule faite, quels termes? Je ne sais pas si Annabelle a un peu commencé à parler de ce rôle du garçon qui est essentiel. Moi, je pensais aux répliques en termes d'apprentissage. C'est toujours, enfin, c'est complètement idiot, mais je me disais, bon, il n'y a pas beaucoup de texte. Oui, d'accord, mais vous le disiez, rôle essentiel, puisqu'elle amène, c'est la première, elle ouvre la scène. En plus, pour vous, Annabelle, ça a été avec deux acteurs différents, Sébastien une première fois et puis Guillaume une deuxième fois. Donc, rôle très important. Vous avez déjà dit quelques mots. Est-ce que vos camarades pourraient également présenter, je ne sais pas, peut-être pas tant leur personnage, ou si, peut-être, est-ce qu'il y a eu un système, est-ce qu'il y a eu de l'identification qui a été faite? Je crois que j'entendais parler Sarah Forestier dernièrement, c'était peut-être ce matin, du film Suzanne qui est sorti, je crois, aujourd'hui. Et on demandait, enfin, je ne sais plus si c'était à la réalisatrice qu'on demandait ça ou à l'actrice s'il y avait une part d'identification. C'est peut-être un peu vaseux quand même comme question, mais je vous en prie. Clémentine, êtes-vous Estelle, hein, c'est-à-dire cette jeune mondaine? Et puis vous, Aurélie, êtes-vous Inès, qui est, comment la qualifier? Elle est dure, Inès.
Elle est dure.
Ouais.
C'est dur. Alors, est-ce qu'on s'identifie au personnage? C'est marrant parce que les élèves qu'on a vus ce matin, donc en scolaire, nous ont posé la même question. Et ce qu'on a répondu, c'est que effectivement, quand on incarne un personnage, on trouve toujours des éléments dans sa personnalité qui nous ressemblent quelque part, ou en tout cas, on se sert de certains aspects de notre personnalité pour les renforcer. Mais là, on a quand même des personnages très forts qui sont assez loin de nous. Et donc, il y a une grosse part de composition quand même. Et je pense pas qu'on s'identifie vraiment aux personnages. C'est plutôt des personnages qu'on apprend à comprendre et qu'on apprend à soutenir jusqu'au bout de la pièce, puisque, encore une fois, on sort pas du plateau pendant une heure et demie. Et on évolue avec eux. Il y a une nette coupure à un moment précis de la pièce où les personnages mutent en quelque sorte et ils passent dans une espèce de folie et ils se révèlent. Ils révèlent vraiment le fond de leur personnalité. Mais voilà, on les comprend
Je vous remercie. Il faut quand même le dire. Ça peut sembler. Oui, j'ai qualifié ça de vaseux de dire. Est-ce qu'on s'identifie ? Ben non. Enfin, du moins, on peut être des acteurs professionnels ou pas et se dire, ben ça va, je fais la part des choses. C'est un rôle que je dois jouer. Mmh. Bien entendu, je vais me servir un petit peu de mon vécu, mais enfin, je peux jouer. Donc, pour vous, Clémentine, une mondaine criminelle. Quel crime a-t-elle commis ? On n'en dira pas plus. Et Inès, donc vous, ce personnage ou je ne sais pas. Enfin, comment est-ce que Sven a été très dictatorial et tyrannique. J'ai pu assister à des répétitions il y a quelques années. C'était assez à la fois effrayant et très, très intéressant, très instructif de voir que le metteur en scène pouvait arrêter lors de répétitions l'acteur à n'importe quel moment. Quoi. Non, là tu vas faire plutôt en plus bas, plus doux, tu vas le chuchoter. L'acteur reprend. Non, en fait, je me suis gouré. Tu vas reprendre plutôt. Voilà, vas-y, véhément, puis tu lèves bien les mains, puis t'en rajoutes. Et donc, je crois qu'en. J'ai pas exagéré, en une heure était faite une petite durée d'une minute, quoi, un truc dans le genre. Donc voilà, enfin, par exemple, Sven a-t-il été comme ça, ou est-ce que, j'en parlais tout à l'heure, y a-t-il une liberté de l'artiste, de l'acteur, de Arlo, opine du chef? Non, pas du tout, au contraire, il nie la chose, mince. Sven qui n'est pas là, les absents ont toujours tort,
c'est,
eh ben, on va,
c'est l'enfer.
On va dober, bon.
Non, au contraire, c'est un metteur en scène qui a vraiment. Un amour du texte, pour le coup, pour huis clos, et qui nous a laissé très très libre de propositions. Après, lui, il avait son idée claire de là où il voulait aller, mais il nous a laissé vraiment le temps d'aller dans notre personnage, de chercher, de proposer. Et enfin, c'est vrai qu'on est tous les jours, on est libre de faire une nouvelle pièce si on veut. Il y a juste quelques placements qui sont posés, mais sinon, on est vraiment très très libre, et c'est ça qui est agréable dans cette pièce-là. Voilà quoi, je sais pas.
Ouais, et puis c'est une discussion aussi, on travaille tous ensemble, donc on a chacun son avis, on en discute tous ensemble. Après, si vraiment on n'est pas d'accord, bah en général c'est Sven qui décide, parce que bon voilà, c'est lui le metteur en scène. Mais on essaye de travailler tous ensemble, c'est beaucoup plus intéressant qu'il n'y ait qu'une personne qui dise bon bah on fait comme ça.
Oui, en plus, enfin, vous l'avez bien dit en tout début d'émission, Sébastien, c'est une compagnie que vous êtes, et alors oui, il y a peut-être effectivement un chef quand même, mais système de compagnie, moi il me semble ça laisse entendre que bien tout le monde peut certainement intervenir. C'est peut-être pas comme des théâtres, je ne sais pas, des théâtres parisiens ou n'importe, où il y a un metteur en scène qui a fait plus ou moins un casting, et puis après voilà, il indique choses, ça doit marcher comme ça. Ou alors, je vais reprendre la métaphore du foot. Il m'arrive de m'intéresser un petit peu au football. Un entraîneur qui dirait, écoute, toi, tu vas jouer un tel poste, et puis un point, c'est tout. Donc là, non, il y a une discussion permise.
Il a forcément, lui, des idées très claires de ce qu'il veut faire. Surtout qu'il a, enfin, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches sur Sartre, sur la pièce en elle-même, sur tout ce que ça voulait dire, et voilà. Sauf que c'est quelque chose qui nous donne pas à nous au départ. C'est ça aussi qui a été intéressant, c'est qu'il nous a laissé aussi un peu patauger au début, on savait pas trop, on essaye, on tente des choses, et petit à petit les personnages s'affinent, on comprend des choses. On a laissé la pièce se reposer un petit peu aussi cet été, et quand elle a été reprise là à la rentrée, il y a des choses qui d'un coup deviennent super naturelles pour nous, qui n'étaient pas au départ, et on comprend des choses que lui avait déjà en tête, mais qu'il nous avait pas donné forcément au départ. Et donc ça, c'était un travail intéressant, c'est que nous aussi, en tant que comédien, après derrière, on cherche, et on essaye d'amener un peu notre réflexion et de faire avancer le spectacle avec lui. Donc ça, c'était intéressant. C'est que c'est pas lui qui nous donne quelque chose à faire au départ. Il nous dit voilà, il y a la pièce, il y a les personnages, allons-y. Et ensemble, on décortique et on apprend en fait à faire notre spectacle. C'est pas son spectacle proprement dit au départ. C'est un peu tout le monde qui a mis la main à la pâte.
Et quelle a été la contribution essentielle, je crois, de Aurélia? Elle est à la scénographie, vous disiez, c'est ça?
Tout à fait, c'est ça.
Et c'est Gérald qui en parlait, là il cherche à perturber un petit peu le cours de l'émission, c'est terrible. Aurélia, qui pourtant Gérald le disait tout à l'heure, l'importance de ces décors, cette beaucoup de lumière, c'est ça je crois, un jeu sur, il était question d'angle, enfin du moins de... Voilà. Aurélia n'est pas présente, mais bon, vous qui êtes ici, est-ce que...
En fait, le travail d'Aurélia, c'est déjà un travail avec Sven, où vraiment lui parle de sa pièce et des idées qu'il y a à l'intérieur. Et elle, ensuite, elle va traduire ça dans la forme, en fait, avec un espace scénique, des accessoires et une lumière. Et ce qu'ils ont essayé de faire au départ... C'est finalement, comme je disais tout à l'heure, de mettre vraiment l'acteur au centre du spectacle, qu'on n'ait pas quelque chose qui soit avec, donc comme je disais tout à l'heure, le salon Second Empire ou quelque chose comme ça. On a vraiment un décor qui est très épuré, comme on disait, très anguleux, et du coup la lumière aussi évolue avec en fait l'évolution de chaque comédien, de chaque personnage plutôt. C'est-à-dire que voilà, on a quelque chose qui commence où on sait pas trop pourquoi ces gens sont là. On a une lumière qui est assez chaleureuse, quelque chose où finalement pas très désagréable. La discussion s'enclenche, il y a Inès qui arrive, Estelle qui arrive, et puis après, comme on disait tout à l'heure, la rupture avec la fameuse chanson. D'un coup, il y a quelque chose qui bascule. Et là, la lumière évolue en fonction de ça. Le décor reste le même.
Concrètement, elle évolue, c'est-à-dire, c'est un système de néon, ou c'est quoi, des spots, des projecteurs, ouais. Et il y a des filtres, enfin, c'est.
Ouais, en termes d'intensité, quoi.
Ouais, en fait, le décor est composé d'un fond et d'un sol blanc avec cinq cubes blancs, mais qui forment trois canapés. Et en fait, ce décor-là s'imprègne vraiment de la lumière. Grâce à donc, la couleur blanche, et la lumière évolue progressivement par rapport à l'état des personnages, en passant d'une couleur assez froide au début, puisqu'on a même des lumières noires sur le garçon quand il est seul sur le plateau, et ensuite une lumière plus chaude qui va s'intensifier pour arriver à une lumière qui éclaire même le public à la fin. Et donc une lumière qui éblouit et qui fait presque se fondre les acteurs dans le décor. En fait. Voilà.
C'est très difficile, oui, Annabelle, parce que toujours un exercice radiophonique, comment parler d'éléments visuels, mais oui.
Non, c'était juste pour répondre à la question un peu plus technique que vous posiez sur comment traduire ça. Donc c'est surtout, oui, à base de néons et de systèmes de LED. Tout à l'heure, on avait donc les élèves qui nous ont posé la question. Sous chaque cube, il y a des LED qui sont installés et qui donnent une espèce de matière à ces cubes. Et la couleur change sous ces cubes, et on se rend compte que ces cubes peuvent effectivement devenir on peut imaginer des canapés qui changent de couleur aussi par rapport à la vision que chaque personnage peut avoir de ce fameux salon dans lequel ils sont. En fait, ils voulaient aussi également que cette chambre soit une chambre que tout le monde peut imaginer à sa manière, parce que c'est l'enfer, on ne sait pas exactement à quoi ça ressemble, et donc chaque personnage peut avoir une interprétation différente de cette chambre et de à quoi elle ressemble. Et donc la couleur et les LED sous les cubes et avec l'aide des néons permettent de changer cette vision.
Non, c'est très bien, c'est très bien. Si. Moi, justement, voilà, c'est ce que j'attendais, des choses techniques, donc un système de LED, de néon. J'étais en train de me dire, c'est quand même terrible. Moi, il me semble cette pièce, généralement, quand on en parle, je crois que dans les milieux autorisés, enfin, je sais plus comment formuler cela, on peut dire que la phrase qu'on retient de huis clos, c'est
l'enfer, c'est les autres.
Eh bien, comment cela a été, comment c'est les rapports que vous avez les uns avec les autres. Tout à l'heure, Annabelle nous parlait donc du garçon qui introduit les différents personnages. Donc voilà, on peut connaître un peu le rôle de ce garçon, mais ensuite les autres entre eux, comment évoluent-ils? Je crois que c'était vous, Aurélie, qui disiez tout à l'heure que Inès se montre dure avec chacun et donc voilà, elle n'est pas très gentille, mais comment ça marche? C'est-à-dire, il y a des prises à partie, vous jetez les uns sur les autres. On vient de parler il y a quelques instants de la scène du coupe-papier qui est quand même présente alors qu'il n'y a plus de coupe-papier. Mon Dieu, comment cela passe-t-il? Donc enfin, je ne sais pas, ces rapports Estelle, je crois, Clémentine, enfin disons, c'est plutôt le personnage d'Estelle, elle doit se montrer, je crois, séductrice dans un certain passage.
Oui,
avec.
Oui, complètement.
Et est-ce qu'on peut lancer le truc avec qui c'était plus facile, Sébastien ou Guillaume?
Ah, c'est dur, ça. C'est dur.
Mais enfin voilà, comment est-ce que cela passe? C'est, je sais pas, il y a des regards ou des trucs ou. Cette scène, je connais mal l'espace 44, je me suis rendu il y a quelques années. Je crois que c'est
très, ça très permet. Confiné, ouais.
Voilà, et donc ça permet, je suppose, de faire en sorte que les spectateurs doivent vraiment tout voir de ce que font les acteurs.
Extrêmement proche du public.
Et en plus, vous le disiez tout à l'heure, c'était vous, je crois, Clémentine, que la lumière à la fin éclaire également le public. Donc comment les rapports marchent-ils entre les personnages? Non, pas nullement parler des acteurs, je déconne totalement. Mais comment ça marche entre les personnages? Comment faire passer cette... Je crois que même Inès passe par plusieurs états. Il y a peut-être que Garcin, je crois, qui reste dans un même état. Si, il y a un jeu où il commence à être un peu séduit par Estelle, mais sinon, me semble-t-il, il reste plus ou moins d'un seul tenant, alors que Inès et elle... Non, je me trompe, je vous en prie. Très très bien.
Si, vous avez raison. Oui.
Moi, il me semble, il y a un seul passage où il dit bon, allez, très bien, on va faire ça. Alors petite, je sais plus si je pouvais avoir le texte sous la main, je retrouverai sûrement. Alors petite, tu dis que tu me plais, c'est ça? Ou tu dis que je te plais, ou je sais plus. Mais voilà, je te plais, mais à part ça, moi, il me semble que c'est en revanche Estelle qui se montre, elle se montre super méchante, non? Avec, elle rit, je crois, ou c'est. Ils sont tous méchants les uns envers les autres.
Le principe de cette histoire, c'est que finalement, tous les personnages sont les bourreaux. Enfin, chaque personnage est le bourreau des deux autres. Ou d'un autre, ou les deux alliés contre l'autre. Donc forcément, il y a une évolution et chaque personnage prend le rôle du bourreau à un moment donné. Et parfois, ça revient et il y a on change de hauteur, en fait. À certains moments, les personnages sont dans des positions de faiblesse, et puis ils reprennent un peu de force, et puis ça tourne, et c'est ça jusqu'à l'infini, en fait, finalement.
Et cela, alors, enfin, je sais même pas comment poser cette question, mais comment ça fonctionne? C'est, y a une intensité, vous parlez de plus en plus fort, ou moins fort, ou je sais pas, ou ça passe par des gestes, ou beaucoup d'évolution, beaucoup de déplacements sur scène, ou enfin.
Dans les regards, dans la respiration,
dans l'émotion.
Dans l'émotion, et puis dans le. Enfin, il y a des contacts qui se forment, en fait, et qui sont pas naturels, on peut dire ça.
C'est ça qui est marrant, c'est parce qu'au départ, on arrive dans cette salle de l'enfer très mondain, avec tous les codes qu'on peut avoir de la vie qui sont restés. Et puis, au fil du temps, ça se dégrade. Enfin, Garcin devient de plus en plus fou, de plus en plus obsédé. Inès devient à une haine qui devient de plus en plus présente. Estelle a ce besoin de séduire qui est de plus en plus...
Animal, plus en plus presque.
Là. Ouais, voilà. Ouais. Mm. Oui, en fait, c'est ça. Ouais, ça devient des animaux, quoi.
Ouais, voilà.
Et donc, cette évolution, elle est bien marquée. Vous la marquez bien. Et c'est,
corporellement, on essaye vraiment d'avoir une évolution là-dessus.
Ouais. On n'a pas évoqué les costumes, et pourtant, je crois, je viens d'entendre donc Guillaume parler de Joseph Garcin. Il tombe la veste à un moment, je crois, c'est ça, puisqu'il pose la question avec les hommes en bras de chemise. Et est-ce qu'il y a vous parliez de la chambre, il faut que chacun puisse s'imaginer cette chambre comme peut-être plus ou moins étant la sienne. Est-ce que les vêtements, y a-t-il quelque chose de particulier, ou alors vous êtes en jean sur scène, et puis, je dis jean comme ça.
Non.
Annabelle, oui.
Oui, pardon, je prends la parole, excusez-moi. Par rapport au costume, il n'y a pas grand-chose de particulier en dehors du fait qu'on voulait une Estelle assez coquette, parce que c'est ce qui ressort de son personnage. Un garçon assez sobre et assez, on va dire, homme de bureau. Inès. Pas trop de commentaires. Par contre, désolée. Par contre, il y a quelque chose. Oui, un bureaucrate pour Garcin. Merci. La seule touche qu'on a donnée, c'est de pas mettre de chaussures. On en parlait ce matin justement avec les élèves. Donc, on joue tous pieds nus, et pour nous, c'était une manière aussi de montrer, enfin, que chaque personnage est à la même, enfin, il n'y a pas de différence de classe, il n'y a pas de différence de richesse, et c'était une manière de dire on est tous égaux, on est tous à la même hauteur. Merci.
Ah ouais, pieds nus. Ouais, ça effectivement, il faut aller voir la pièce pour constater la chose. Ce que nous pourrions peut-être faire, à moins que vous ayez encore des mots à ajouter, ce que nous pourrions peut-être faire, c'est écouter Françoise Breu. Pourquoi ? Parce que c'était programmé. Puis il me semble, on entendait tout à l'heure, je sais pas, des choses planantes ou je ne sais quoi. La musique, Gérald nous a dit que ça pouvait être planant. Enfin, on va regarder. Non, chanson française. C'était peut-être Cannes tout à l'heure. Enfin, on va voir. Et puis Gérald l'avait proposé. C'était une bonne idée. Ou peut-être qu'il ferait mieux de se taire. Françoise Breu, c'est celle qui. La compagne de Dominica.
Non, pas compagne.
Françoise Breu, Dominica, oui.
C'est un album récent, je trouve, assez poétique.
C'est très récent, de la poésie. Ce qu'on pourrait faire peut-être.
Je pense que c'est un astronome, c'est un peu près.
Ce qu'on pourrait faire, c'est. Gérald, donc, l'avait proposé. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il ne fallait pas l'inviter ? Il n'aurait pas fallu l'inviter. C'était de. Des extraits, enfin je sais pas comment nommer ceci, quelques répliques, comme ça, enfin du moins, mais voilà, je ne veux nullement vous gêner, parce que vous pourriez dire, bon non, merci, on a joué ce matin, on rejoue ce soir, ça va aller, mais je sais pas, pour tenter de créer quelque chose, après, bon bah les regards, chers auditeurs, ça ne passera pas, je pense, l'animalité, ça ne passera pas non plus, mais peut-être dans l'intonation, dans la respiration, on disait, peut-être certaines choses pourront passer, donc écoutons Françoise Breu, et puis tout doucement, nous allons arriver au terme de l'émission, il me semble qu'il reste quoi, encore une grosse dizaine de minutes, de toute façon, Pascal n'a pas encore pris place, il n'est pas encore même dans... Pascal n'est pas dans la place pour l'émission suivante à 15h, le blues des canuts. Donc on va peut-être déraper, nous allons voir. Écoutons Françoise Breu et puis nous poursuivrons avec la compagnie La 11e. Nous poursuivrons et achèverons l'émission. Aujourd'hui nous parlons, je le rappelle encore, de la pièce Huit clos de Jean-Paul Sartre qui est mise en scène à l'espace 44, 44 de la rue Burdeau, jusqu'au dimanche 22 décembre. Voilà, Françoise Breu parle de l'âme lumineuse et ça n'était pas terminé. Oui, d'accord, mais l'émission va arriver. L'astronome, c'était sur un. Ce n'est pas le dernier album, mais c'est un album de Françoise Breu, chanson française. Et voilà, on a coupé un petit peu Françoise Breu pour laisser place à la compagnie La 11e pour qu'il puisse, eh bien, nous donner peut-être un avant-goût de cette pièce Huit clos de Jean-Paul Sartre qui est jouée à l'espace 44 jusqu'au dimanche de cette semaine. On est mercredi, il reste encore quoi. Allez, ce soir, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, encore 5 représentations. Si vous êtes scolaire, peut-être qu'il y en a encore ces jours-ci. Il y en avait une ce matin de représentation. Ouais. Bon, bah, si vous êtes scolaire, rendez-vous à l'espace 44 toujours.
Ouais.
Ah ben c'est très bien. Donc allez vendredi toujours. À l'espace 44 sur les coups de 10h du matin, je suppose. Il faut le temps que les lycéens puissent arriver. Mais c'est très très bien desservi. Hein. Je l'indiquais tout à l'heure. C'est en sortant du métro Hôtel de Ville. Ça dépend. On sort à gauche, droite. Bref, on s'engage dans une rue et paf, on tombe dessus. Et donc, nous avons sur scène Clémentine, Aurélie, Annabelle et Guillaume qui vont incarner, peut-être tous ensemble, je ne sais pas, ou séparément, ou que quelques-uns, qui vont incarner pour Clémentine, c'est Estelle, pour Aurélie, c'est Inès, et pour Guillaume, c'est Joseph Garcin. Oui, il y a les noms de famille, je crois. Estelle, c'est Rigaud, et Inès, c'est...
Serrano.
Serrano. Il n'y a que le garçon qui n'a pas de, qui n'a aucun nom ni patronyme. Nous sommes dans la pièce Jean-Paul Sartre de huis clos, et la compagnie La 11e se propose de faire un extrait. Je leur laisse la parole. Expérience radiophonique.
Et votre femme, garçon?
Eh bien quoi? Je l'ai tirée du ruisseau.
Vous voyez? Vous voyez?
Je vois. Pour qui jouez-vous la comédie? Nous sommes entre nous.
Entre nous?
Entre assassins. Nous sommes en enfer, ma petite, et il n'y a jamais d'erreur, on ne damne jamais les gens pour rien.
Taisez-vous.
En enfer.
Damnez
la petite sainte, damnez le héros sans reproche. Nous avons une autre heure de plaisir, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont souffert pour nous jusqu'à la mort. Et cela nous amusait beaucoup. Mais à présent, il faut payer.
Est-ce que vous vous tairez?
Ah, mais attendez, je sais pourquoi ils nous ont mis ensemble.
Prenez garde à ce que vous allez dire.
Vous allez voir comme c'est bête. Bête comme chou. Nous sommes en enfer, n'est-ce pas? Et cependant, il n'y a pas de torture physique. Et personne ne doit venir, personne, hein? Nous resterons jusqu'au bout, seuls ensemble. En somme, il y a quelqu'un qui manque ici. C'est le bourreau.
Je le sais bien.
Bravo! Non, non, vraiment impressionnant. On n'a pas l'image, mais bon, ça passait quand même très bien. Ça me faisait penser aux répliques au tout début. Je crois que c'est Estelle, quand elle arrive, elle pense que Joseph Garcin est le bourreau, ou c'est Inès qui le croit?
Non, c'est Inès.
C'est Inès qui le croit. Est-ce que, peut-être un mot de la fin, est-ce que cette expérience, oui, je crois l'avoir compris, cela vous a plu? Rejouerez-vous encore cette pièce, la rejouerez-vous encore une autre fois? Donc il y a eu une première, j'ai cru comprendre, avant l'été, il y a maintenant des représentations qui ont lieu ces jours-ci à l'Espace 44. Est-ce que cette pièce serait donnée autre part dans quelques temps? Y a-t-il des choses prévues?
C'est ce qu'on souhaite. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas de date précise, on est en train de travailler dessus et on va essayer d'un peu d'aller jouer à droite à gauche, mais pour l'instant, il n'y a pas de date précise.
En région toujours? Rhône-Alpes, où ça peut être un
on
peu
peut,
plus
loin. On peut voyager.
Voilà, on pourrait
pas ailleurs. Quoi, mais...
On est mobile.
Mais d'ailleurs, appel éventuellement à compagnie, voilà, maison lyrique, enfin je ne sais, à structure, maison de théâtre. La compagnie La 11e est très disponible. Ils sont tous super sympas. Gérald est vraiment tombé sous le charme. Il fait plein de commentaires. Je crois que, allez, nous sommes arrivés au terme. On va lancer du Massive Attack pour clore. À moins que vous ayez quelque chose encore indiqué. Enfin, je ne sais. Je pourrais donc tout donner sur le blog, le numéro de téléphone s'il faut réserver, ou les horaires 20h30, l'Espace 44, je crois l'avoir rappelé deux ou trois fois que c'était au 44 de la rue Burdeau. Sébastien, oui, non?
Non, rien de spécial, juste merci de nous avoir accueillis. Merci de nous avoir laissé un peu la possibilité de parler de cette pièce, qui est un projet qui nous tient à cœur, ouais. Donc voilà.
Ah bien, je vous retourne le remerciement. C'est très sympa d'être venu, et d'être venu en grand nombre. Eh bien voilà, Gérald vient de s'écrier, mais il n'a pas de micro aujourd'hui, ça c'était spectaculaire. Mais c'est intéressant, Gérald l'avait déjà dit, que l'émission peut être à la fois spectaculaire ou non spectaculaire, ou peu spectaculaire, ou je ne sais. Aujourd'hui l'émission recevait l'équipe, la compagnie La 11e, j'ai cru comprendre qu'il n'était plus que 10. Suivez les aventures de La 11e, je tenterai de donner l'adresse, il doit y avoir un lien, il doit y avoir un site qui doit exister. Bref, tout se trouve comme d'habitude sur le blog de Radio Canu, enfin le blog de Spectaculaire. L'adresse c'est blogs.radiocanu.org/spectaculaire. Vous aurez toutes les informations qu'il faut, et surtout vous aurez cette information principale qui est allez-y donc voir cette pièce 20h30 jusqu'au dimanche 22 décembre, huis clos de Jean-Paul Sartre, avec ma foi une bonne bande de sympathiques gens qui sont de bonne compagnie et fort bons compagnons, grands buveurs, non je confonds, ça c'est Rabelais. Spectaculaire, petite pause, on se retrouve ni la semaine prochaine 25 décembre ni la suivante 1er janvier, mais on se retrouvera le 8 janvier pour parler de musique baroque. Voilà, mais ça peut être très bien la musique baroque. Le théâtre est également très bien. Il y a un opéra, Les Contes d'Hoffmann, qui est très bien. Le concert de Triquet était très bien. Tous les renseignements seront sur le blog de Spectaculaire. Passez une bonne semaine, allez voir huis clos et restez à l'écoute des programmes de Radio Canu, les programmes en direct, et ainsi que les bandes continues. Salut tout le monde, ciao.